Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h02, on est toujours ravis de vous retrouver comme chaque lundi donc pour encore 1h30 de sport. Hein. On va vivre encore tout plein de belles choses sur notre antenne. Alors certes, on parlera foot dans la dernière partie de cette émission avec au téléphone notre ami Stéphane Desenclos hein, pour revenir sur une folle semaine de foot que l'on a vécue. Mais fidèle à notre tradition, on va aussi parler de certains sports dont on ne parle pas beaucoup, sauf sur Mon Paris FM. Je vais saluer donc notre premier invité, on va parler en première partie d'équitation. Donc on va saluer notre invité, Daniel Gaillard, la présidente du comité départemental d'équitation de Paris. Bonsoir Daniel.
Bonsoir à tous.
C'est un plaisir de vous recevoir.
Hein, moi
voilà.
Également.
Ça fait un petit moment qu'on vous voulait, donc on a réussi à caler une date. Et puis autre sport dont on ne parle pas très souvent, mais sauf chez nous, eh bien on va parler de char à voile aujourd'hui avec le DTN venu tout droit de la Fédération Française. C'est Monsieur Christian Février. Bonsoir Monsieur Février.
Bonsoir.
Je vais vous demander
bonsoir
d'être...
à tout le monde.
Ouais, voilà. Et puis naturellement, je veux saluer la belle équipe qui m'entoure. D'abord Vanessa. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe.
Ça va, pleine forme ?
Très bien.
Très bien.
Super
voilà.
Week-end sportif.
Ah oui.
Grands rendez-vous.
Et puis je peux te dire qu'entre le foot et les
Et le
tennis, on a beaucoup travaillé cette semaine.
Ah bah hein.
Voilà.
Oui.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Philippe.
L'homme
bonsoir
des
à tous.
Coup de cœur, coup de gueule.
Tout
voilà.
À fait.
Et puis Marius, l'homme. Alors lui, Marius, il a passé tout week-end à la télé parce que non seulement il va parler foot, mais il va faire jouer les sports aussi. Donc il a tout vu.
Ah bonsoir Philippe.
Marius,
bonsoir
ça
tout le monde. Ouais, non. Oui, oui.
15 de France est battu les filles.
Ouais, malheureusement. On en parlera dans le journal.
Et puis on parlera avec notre ami Stéphane Desenclos de cette folle dernière semaine de Ligue 1, mais aussi en National. On aura l'occasion donc d'y revenir. Allez, Daniel, première question. J'ai envie de vous dire comment se porte l'équitation sur Paris.
Plutôt pas mal.
Oui.
Plutôt pas mal. Alors bon,
oui.
Ce qu'il faut savoir, c'est que je préside un comité départemental de Paris, oui. Donc intramuros. Donc je dépends directement de la fédération. Nous
oui.
En avons, c'est comme un millefeuille. Vous avez d'abord la fédération, ensuite les comités régionaux, donc en l'occurrence le comité d'Île-de-France,
oui.
Et enfin les départements. Et moi, je oui. Préside celui de Paris.
Monsieur Feltès est toujours présent.
Pardon.
Monsieur Feltès.
Alors Monsieur Feltès est président du comité régional
voilà,
et Frédéric Bouix
ouais.
Est le président
ouais.
De la fédération.
Voilà, c'est ça. Hein.
Ouais. Donc, je suis leur porte-parole au niveau
voilà.
De Paris.
Mmh.
Paris, comment se porte l'équitation ? À l'heure actuelle, plutôt bien. Il faut savoir qu'à Paris, nous avons pratiquement plus de 8000 licenciés dans Paris intramuros, qu'on peut trouver ça étonnant. Mais nous avons 6 ou 7 structures avec des terrains, aussi bien dans le bois de Boulogne que dans le bois de Vincennes.
Ouais. Mmh.
Il y a une grande part également que jouent les militaires, avec la garde républicaine qui est située à la Bastille et le très gros centre des cadets de la garde qui se trouve à Vincennes, sur l'esplanade mmh. De Vincennes. Nos centres à Paris sont plus ou moins complets, que ce soit au niveau de des écoles, que ce soit au niveau de ce qu'on appelle des propriétaires, c'est-à-dire des personnes qui achètent un cheval et qui vont venir les monter. Il faut savoir qu'en moyenne, il doit y avoir à Paris 120 box pour tout Paris, pour un propriétaire, donc c'est assez facile de les remplir. Les écoles sont pleines parce que c'est c'est un sport de proximité.
Mmh.
Les enfants sortent de l'école et vont directement dans les clubs, tout niveau confondu. Et nous commençons l'équitation en principe à partir de certains clubs 4 ans, 5 ans, 6 ans et plus, bien sûr. Moi, je m'attache, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, à essayer de développer le contact avec les poneys dans les écoles maternelles.
Alors, on y va maintenant, vous avez des projets. Hein.
Alors,
cherchez des financements.
Et je cherche des financements.
Ouais.
J'ai un projet extrêmement important dans Paris, c'est que je me suis aperçue que les enfants de 3 à 4 ans, c'est-à-dire la première année de maternelle, on ne pouvait rien leur proposer parce qu'ils sont trop petits. On ne peut pas faire du tennis, ils ne peuvent pas faire la course à pied, ils se cassent la figure, on ne peut pas faire du foot,
ouais.
On ne peut pas faire... Non, par contre, je me suis aperçu que si on faisait venir les poneys dans les écoles, dans leur milieu de vie, ils étaient totalement ébahis.
Mmh.
Alors, ça existe déjà que la classe se déplace dans un centre équestre. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que le poney vient dans leur centre de vie, au milieu du toboggan, au milieu de la balançoire, dans leur école. Et les directrices d'école et les professeurs ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont un projet éducatif global. C'est-à-dire, avant que les petits poneys viennent dans l'école, ils travaillent pendant un mois. Qu'est-ce qu'un poney? Qu'est-ce qu'il fait? Où il vit? Comment il dort? Qu'est-ce qu'il mange? Après, ils voient le poney arriver chez eux. Ils le brossent, ils le caressent. Il y a deux séances, une caresse vraiment en main, où il s'occupe de lui comme d'un petit animal. Et ensuite, la deuxième séance, c'est qu'ils montent dessus, dans la cour. C'est-à-dire que dans leur cours, ils arrivent et on leur met un casque, bien sûr, mm-hmm. sécurité absolue, bien sûr.
Bien sûr.
Et ils montent dessus et ils apprennent ce que c'est que cet animal sur lequel on peut monter. Tout ça, c'est fait dans la bonne humeur, dans toute la grande sécurité. Et effectivement, je recherche des fonds parce que j'ai obtenu l'accord de l'UCEP. Je ne sais pas si vous connaissez l'UCEP, c'est une délégation du ministère de l'Éducation nationale pour aller dans les écoles. J'ai une trentaine d'écoles. Quarantaine d'écoles qui sont en demande, je n'ai pas les fonds.
Ouais.
Donc je cherche les fonds.
Bon. Et il manque combien?
Pardon?
Il manque combien?
Oh!
L'idéal, ce serait combien?
L'idéal, c'est plus j'ai d'argent, plus je peux faire venir les poneys dans ces écoles. Ce sont des tout petits poneys, des petits Shetland. J'appelle ça des poneys un peu loukoum, parce que ce ne sont pas des poneys de sport. Ce n'est pas des poneys qui vont se retrouver en compétition le week-end d'après. Ce sont des poneys qui sont faits que pour ça. Souvent, ils ne sont pas très jeunes. Mais par contre, ils se reposent, on les caresse, on les câline, on leur donne des carottes. Ils sont ravis. Voilà.
Ouais, parce que
gamins en face sont estomaqués.
Oui, parce que j'allais parler justement aussi du bien-être animal. Comment on fait pour gérer poney dans la cour?
Il faut savoir que le bien-être animal, dans la cour, il ne fait rien que de regarder les petits gamins qui viennent près de lui. Il faut savoir que quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont dans les prés. Et ils passent toute la nuit, parce que le Shetland aime être dehors, ils passent toute la nuit dehors, quel que soit le temps. Ils ont un abri, hein.
Oui.
La flotte qui est tombée ce week-end, ils sont dans l'abri. Mais pas toujours. Le cheval, souvent, la pluie, lui, ne le gêne pas. Ils sont équipés, ils ont un poil important, ils sont équipés pour être dehors. Mais ils sont, pour revenir à votre question, le bien-être animal, ils sont là, ils sont tranquillement, ils ont des enfants qui les caressent, ils apprécient. Ils aiment mieux souvent ça que d'être délaissés dans un coin, dans un pré où on viendra pas les voir. C'est l'animal vivant qui a besoin aussi du contact humain.
Ouais.
Voilà. Contrairement à peut-être d'autres sports où on a affaire à une machine.
Voilà.
Là, c'est pas une machine.
Et puis l'humain qui a besoin du cheval parce que ça a des vertus. Hein.
Alors l'humain a des vertus. Le cheval a des vertus extraordinaires.
C'est reconnu ça.
Le cheval ne juge pas l'homme.
Ouais.
Donc déjà quand vous avez des soucis, ça m'arrive de temps en temps. Je vais dans un box, je me mets derrière mon cheval et je lui raconte mes histoires.
Ouais.
Il est ravi de m'entendre et moi je sens sa chaleur, je sens ses ondes qui reviennent vers moi. Le cheval a un atout extraordinaire, c'est qu'il ne juge pas et il accepte nos erreurs. Contrairement à souvent quand vous avez deux joueurs de tennis ensemble, s'il y en a un qui a fait une erreur, je peux vous dire que ça grogne. Là, le cheval, il dit rien. Il accepte qu'on lui ait donné un petit coup de talon, qu'on lui ait fait quelque chose. Il accepte, c'est
il
pas un
pas
problème.
Il ne donne pas un petit coup de sabot?
Non, je blague. En principe, non. Bon, c'est un animal de 500 kilos pour les chevaux et de 300-400 kilos pour les Shetland. Il faut faire attention.
Si je peux me permettre, justement, quand j'avais été au salon du cheval, j'avais évoqué tout ça et puis il y a quand même, comme vous le disiez, il y a une préparation avant la venue des poneys dans l'école. Et justement, ça permet aussi d'apprivoiser un peu leur réaction. J'en avais parlé et c'est aussi d'apprendre comment réagit le cheval, la psychologie du cheval, ça c'est important. Mais ce qui est très important aussi, c'est le lien que ça peut créer avec l'enfant et tout le bien-être que ça peut apporter. Et aussi même les plus grands, les ados. C'est souvent même
C'est une ferme, le cheval.
Voilà.
Le cheval en lui-même, il appartient à une ferme. Il faut savoir que l'autre jour, j'étais dans une école du 20e et les poneys étaient devant la sortie scolaire. Il y a des gamins de 12 ans qui voient la directrice et qui disent à la directrice, il y avait un petit Shetland qui était pis, marron blanc, et qui dit à la directrice, oh, la belle vache.
Alors,
non, mais c'est pour dire que dans ces quartiers un petit peu d'Est parisien, ils ne connaissent pas forcément le chien, le chat. Et quand d'un coup, ils voient dans l'école arriver un Shetland, ils sont estomaqués.
C'est ça.
Estomaqués. Ouais. Les familles sont là et en redemandent. Les familles sont prêtes en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils reviennent plus souvent parce qu'ils ne connaissent pas ça.
Et vous, votre passion, elle arrive comment? Très jeune? Vous avez
alors,
vécu au milieu
des chevaux? Alors, j'ai une passion, c'était une passion qui est partie. Ouais. Je suis pas mal montée parce que ma mère m'a mis à cheval. Ouais. J'ai fait une très grosse chute, comme ça arrive de temps en temps. J'ai arrêté 25 ans, 30 ans.
Ça vous a pas découragé?
Et tout d'un coup, j'ai mis ma fille à poney. Ouais. Et là, j'ai senti l'odeur du crottin. Ouais. Je suis désolée de vous dire, mais pour nous, enfin pour moi, le crottin n'est pas une odeur insurmontable.
Ah bah non, c'est pas
tout.
Quand c'est hygiène, hein, ça c'est sûr.
Et j'ai senti ça et j'ai dit, il faut que j'y retourne. Ouais. Alors, j'y suis retournée un petit peu, un peu beaucoup, passionnément à la folie. Et maintenant, je suis retraitée. Mais l'avantage, malheureusement, je suis retraitée, donc je suis vieille. Mais l'avantage d'être retraitée, c'est que je peux faire ce que j'ai envie. Donc, je m'occupe de chevaux, je m'occupe de cavaliers. Je suis juge de dressage parce que j'adore le dressage et que c'est une chose qui me passionne. Et voilà, et j'essaye maintenant d'entraîner des petits bambins de 3-4 ans à savoir ce que c'est et à essayer de partager ma passion. Alors, ça ne sera pas une partage de passion immédiat, mais déjà qu'ils sachent que ça existe.
Ouais, puis,
et qu'ils disent après à leurs parents, bah, attendez, c'était tellement fabuleux. J'ai envie d'aller voir un centre équestre. Ils vont pas employer le mot centre équestre. Ils vont dire, papa, j'ai envie d'aller voir un déponé, c'est trop marrant. Et dans ce cas-là, bon, ça l'amène dans un centre équestre pour voir la suite, pour pouvoir continuer.
Alors, il y a beaucoup de clubs donc, sur Paris.
Alors, à Paris,
si
nous
on veut
avons,
s'inscrire, par exemple.
À Paris, nous avons six clubs avec installation, plus les militaires. Après, nous avons des clubs, nous avons des associations sportives qui s'inscrivent à Paris, comme les Veneurs. Ben, on ne chasse pas à court à Paris. La Banque de France, l'association sportive de la Banque de France. Donc, ça, ils s'inscrivent à Paris. Et après, ils vont dans des écoles qui peuvent aller à Saclay, où il y a des installations. Ils peuvent aller en grande banlieue.
Alors, est-ce que c'est un sport qui est cher pour des parents qui voudraient inscrire leurs enfants?
L'équitation...
Et à partir, donc, vous avez dit 4-5 ans, on les prend déjà?
Ah oui, oui, 4-5 ans sans problème, même avant. J'ai des Shetland, on peut les faire même avant. Moi, vous voyez, j'ai mon petit-fils a 2 ans et demi, et je réfléchis comment je peux le mettre dessus. Alors, les parents sont... le père est contre, mais c'est pas grave. la mère est pour. Et en fait, ce que j'ai réfléchi, c'est que je vais mettre sur un petit cheval ou un poney, je vais mettre un harnais de voltige. Et c'est-à-dire qu'un harnais de voltige, un espèce d'harnais d'une... espèce de grande ceinture qui entoure le cheval, sur lequel on va mettre 2 poignées extrêmement solides, sur lequel le petit enfant va s'accrocher. Donc, il n'aura plus l'impression d'être dans le vide et il sentira la sensation du cheval en mouvement en s'accrochant. Donc, on peut commencer extrêmement tôt. Et puis, quand on commence extrêmement tôt, on essaye de comprendre qu'est-ce qui nous attire auprès du poney. C'est justement toujours la même histoire. Je peux lui raconter mes histoires, il ne va pas les répéter à papa et à maman.
C'est pas mal, ça.
Et ça fait de l'endorphine. C'est comme ça qu'on crée de l'endorphine. Et puis ça fait boule de neige. Parce que je suis pas jugée, je suis pas le petit gamin. Et puis après, il y a une émulation entre enfants aussi.
Oui, bien sûr.
Il y a une émulation entre enfants. Est-ce que Paprenelle a été sage? Est-ce que Paprenelle, on peut aller la voir? Est-ce qu'on peut aller la nettoyer? Est-ce qu'on peut la gratter? Et Paprenelle adore être grattée.
Alors, ça coûte cher? Le prix, parce que
alors,
ça coûte
plus cher que
c'est
beaucoup
un peu
de sports.
Sport, hein, quand même,
ça coûte beaucoup plus cher que beaucoup de sports. Pourquoi? Parce que quand vous allez jouer au tennis, vous avez une raquette de tennis. Une fois que vous avez fini de jouer au tennis, vous la mettez dans un coin et vous passez à autre chose.
Après, on peut en avoir plusieurs. Mais enfin,
on peut avoir plusieurs raquettes.
Vous tapez beaucoup sur le tennis, si je puis me permettre.
Pardon?
Vous tapez beaucoup sur le tennis, si je puis me permettre.
C'est une ancienne joueuse.
Non, mais on peut faire. Bon, le problème, c'est que là, on a affaire à un animal vivant.
Exactement.
Cet animal vivant, il se nourrit, il dort, il vit, il voit un véto, beaucoup plus que moi, il voit un dentiste, on lui met des chaussures, comme moi j'ai des chaussures, mais lui aussi, mais la différence c'est que les fers, ce qu'on appelle les fers, il faut les changer tous les 3-4 semaines, voire 5 semaines, et ça coûte. Donc tout ça, c'est différent d'une raquette de tennis que vous achetez une fois pour toutes. Ou un ballon de foot que vous achetez une fois pour toutes. Là, vous allez faire du vivant. Le vivant, pour le bien-être animal, va très souvent au pré. Quand il n'est pas en train de travailler ou d'être avec nous, il est au pré. Et dans ce cas-là, ça coûte. Il faut qu'il mange de l'herbe.
Combien en moyenne? 150 euros, 200 euros par pour cotisation?
Il y a de tout. Il y a de tout parce qu'on peut très bien monter avec une séance à 20 euros.
Oui, c'est ça.
Vous arrêtez, vous allez au ticket. Vous prenez. Si vous commencez à être un petit peu plus féru, à ce moment-là, vous pouvez prendre une licence.
Ouais. Bon, mais il y a l'équipement aussi après.
Mais l'équipement, on ne doit pas donner de noms, mais enfin, Made in China. Excusez-moi, le casque, ça ne coûte pas grand-chose. Les bottes, vous pouvez vous en servir en dehors de l'équitation. Et il faut un pantalon qui ne fasse pas mal quand on s'assied. C'est tout. Le plus important, c'est le casque.
Mais je crois aussi qu'il y a quand même certaines villes qui ont justement une politique communale, qui justement favorise l'accès à l'équitation. Comme moi, par exemple, j'avais interviewé le maire de Neuilly-sur-Marne, et là, c'est géré par la ville. Et justement, ce que je trouve important, c'est de casser un peu cette image élitiste, parce que l'équitation n'est pas un sport réservé aux riches. Il y a quand même des possibilités d'accès pour les tout type de classe quand même, tout type de budget, et il y a quand même toujours plus ou moins une solution, même si c'est vrai que ça peut rester un sport cher, comme le tennis, comme le patinage artistique, sont certains sports, mais voilà.
La plupart de nos clubs offrent des baptêmes poney.
Oui.
C'est-à-dire que le petit gamin qui va dans un centre équestre, qui veut commencer, qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a des journées portes ouvertes où on leur offre carrément l'essai. Ensuite, et je pensais même, parce que je parlais du casque, on leur prête un casque.
Oui.
Nous avons des casques homologués qui sont là et qui attendent. Donc, en fait, si on veut que ça ne coûte pas grand-chose, on prend un cours une fois de temps en temps, ça va coûter 20 euros, je dirais.
Voilà.
C'est quand même, je pense, ça coûte, c'est vrai. Ouais. Mais on est en face.
Mais il y a des possibilités.
Absolument.
Et je pense que c'est important
absolument
de le souligner pour
absolument
que, justement, c'est les jeunes, d'où qu'ils viennent, ou moins jeunes, puissent se dire « oui, moi, je peux faire de l'équitation ». Oui, moi, je peux faire ce sport. C'est important parce qu'en plus, ça favorise énormément, ça apporte beaucoup de bienfaits, comme l'a souligné mon confrère Stéphane. Voilà.
Ça apporte énormément de confiance en soi. Mmh. Il faut se dire qu'on est devant un animal qui parfois peut être imprévisible. Et quand ça se passe bien, on se dit « waouh, j'ai passé une journée géniale ». Parfois, ça se passe moins bien. Moi, une fois, je suis tombée, j'ai arrêté. Ok, ben, vous arrêtez. Puis vous reprenez quelques années
tiens,
après.
Justement, est-ce que ça fait peur aux parents, ça?
Alors, les parents de ceux qui ont fait de l'équitation, sûrement pas.
Oui.
Ceux qui n'en ont jamais fait, ça peut le faire. Ouais. Après, il faut qu'ils comprennent que c'est un nouveau sport.
Oui,
bon, qui ne s'est pas fait tordu une cheville en courant? Fait en faisant du... je parlerai à mon voisin tout à l'heure du char à voile.
Oui.
Je pense qu'on peut se planter. On peut se planter en char à voile de la même manière.
Oui.
Malheureusement, oui. Donc, si vous voulez, oui, il y a un danger, mais si vous voulez, on ne vit pas sans danger.
Oui,
prenez votre voiture, vous risquez aussi.
Oui,
mais par contre, votre voiture ne vous apportera pas de l'endorphine, comme le cheval peut vous l'apporter.
Alors, justement,
autrement, si je puis dire. Si on est dans la course automobile et qu'on est guidé par la victoire.
Course automobile, on avait déjà fait depuis quelques temps. Là, on parle vraiment du gamin, 3-4 ans, 4-5 ans, où là, il découvre quelque chose. Il tisse avec un animal. Il fait du rêve.
Bien sûr.
Il
bien
fait
sûr
du rêve. Qu'est-ce que ce petit caramel est en train de penser de moi?
Ah oui,
bon,
tout à fait.
Il tisse du rêve avec lui.
Ouais. Alors justement, cette endorphine, ça peut aussi provoquer l'envie de faire de la compétition. Alors, quand on fait de la compétition, là, c'est un autre investissement.
Là, le budget. Mais avant qu'on arrive à la compétition, cher ami, il y a quand même un gap.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Ah ouais.
Alors, la compétition, où que ce soit, je pense, coûte cher aussi.
Oui.
Que ce soit en foot, en tennis, enfin, moi, je ne connais pas tous les sports.
Mais là, par exemple, il faut un cheval en compétition.
Jamais. Ouais.
Non, mais,
jamais.
Non, mais,
jamais.
Mais moi,
vous
sais,
avez,
public,
alors, la fédération. La
comment
fédération,
ça se passe? On vous loue, on vous prête un cheval, vous
alors,
faites la compétition.
Vous arrivez.
Vous changez
en club,
de cheval chaque fois.
Vous arrivez en club. Prenons un gamin de 7, 8, 9, 10 ans. Vous avez en club, il monte, il progresse, il commence à être très bon.
Mais il monte quel cheval?
Il monte un cheval de club.
Différent chaque
Alors ça dépend de l'instructeur.
Ouais.
Mais ça peut être ou le même cheval, ou ça va être, ils peuvent changer de cheval. Je vous dirais, et je ne connais pas par expérience, quand ils changent de cheval à chaque fois, c'est beaucoup mieux parce qu'ils s'adaptent à d'autres problèmes.
Ouais.
Ce n'est pas une mécanique huilée qui est toute la même. Si vous changez à chaque fois, vous pouvez me dire une voiture, vous passez d'une Audi à une Citroën, à une Renault, ça reste un volant et ça reste des pédales. Nous, non. Notre cheval est différent du cheval d'à côté. Et les pédales ne sont pas du tout les mêmes. Et là, sa manière de réagir, c'est ça qui est intéressant aussi.
Oui, c'est ça qui est intéressant.
Sa manière de réagir est différente et il faut que je m'adapte.
Ouais. C'est le rapport humain-animal.
C'est le rapport humain-animal. Il y a un cheval qui aura besoin de le mettre en avant, ou alors il y a un cheval qui, au contraire, aura besoin qu'on le freine. Eh bien, il faut que le cavalier s'adapte et ça, c'est passionnant. C'est pas une mécanique absolue dans une boîte. Et chaque fois, et même le même cheval peut être différent deux jours de suite.
Oui, bien sûr. Et puis,
donc, pour revenir à ce que vous disiez, la compétition en club existe, quel que soit le niveau, que ce soit poney ou que ce soit cheval. Donc, les gamins, ils ont un grand rêve, c'est d'aller à la Motte Beuvron, qui est le rassemblement le plus grand au monde de poneys et de chevaux en compétition, toute une classe à un certain niveau de compétition va à la Motte avec les poneys de club, donc ils ne sont pas propriétaires, et ils vont faire les compétitions. C'est que du club et ce n'est pas des chevaux de propriétaires.
Oui. Alors, après, on peut aussi se spécialiser. À partir de quand on choisit le concours de saut d'obstacle, on choisit l'enduro, on choisit...
La voltige, par exemple. La voltige, oui. Déjà, il y a des bases communes qu'il faut avoir. Une fois que les bases communes sont acquises, on sait très vite si on a envie de commencer à sauter ou si on a envie de faire du dressage. Le dressage est extrêmement... J'allais dire difficile, c'est très précis, ça demande, c'est très fastidieux, ça veut dire que c'est comme la musculature, on doit tous les jours refaire et refaire et refaire les mêmes mouvements jusqu'à ce que ça soit parfait. Bon, le dressage va souvent pour des élèves plus âgés.
Oui, j'allais vous demander à partir de quel âge on peut commencer.
Les gamins qui veulent sauter, c'est 5-6 ans, c'est non.
Le choix, il se fait dès
Maman, j'ai envie d'y aller. Maman, j'ai envie d'aller sauter. Et puis, alors, tous mes petits copains, ils sautent dimanche prochain. Donc là, maman doit se lever à 5 heures du matin. Parce que leur parcours, leur reconnaissance du parcours est généralement vers 7 heures. Temps d'y aller, d'embarquer les poneys. C'est toute une structure à faire. S'il y a 10 poneys qui partent ensemble, c'est pas l'instructeur qui fait ça tout seul. Les parents sont là, les gamins sont fous de joie. Tout ça, c'est une émulation extraordinaire. Ça, on doit retrouver dans d'autres sports, cette émulation.
Oui, bien sûr.
En concours.
Bien sûr.
Et on arrive sur place, et là, le tour de CSO, le tour de jumping, ça dure moins de 2 minutes.
Bien sûr, oui.
Et puis alors là, c'est simple. Ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, soit ça passe, soit la barre tombe et c'est vu. En dressage, c'est tout à fait autre chose. Voilà. En dressage, une reprise de dressage dure 5, 6, 7 minutes. Là, on fait des figures devant des juges. Et ces juges notent. Là, il y a une part de subjectif indiscutable. Vous l'avez au patin à glace.
Au patin à glace, oui. Patinage artistique.
Nelson Montfort, à l'époque, qui racontait... c'était extraordinaire.
J'ai vu hier, mais enfin, ça, c'est autre chose.
Comment ?
J'ai vu hier, mais enfin, ça, c'est autre chose.
Ouais. Et là, c'est un peu la même chose, vous avez des juges qui donnent des notes et on fait la moyenne de ces notes.
C'est ça.
Donc là, c'est très différent. C'est pas la barre qui tombe. Le seul problème en CSO, c'est s'il y a un dépassement de temps. On vous dit, vous devez faire ça en une minute.
Ouais.
Bon, vous faites une minute 10, hop, dépassement de temps.
De mémoire, il y a aussi quelques pénalités quand la barre tombe. Il y a un certain nombre de points, voilà, mais après, on va pas développer.
Mais en dressage, déjà, ça dure 5 à 6 minutes par cavalier.
C'est ça.
Par cavalier. Très, très long. Moi, je suis juge de dressage.
J'allais vous poser la question, combien de cavaliers est-ce qu'on fait passer justement?
Alors, le maximum, grosso modo, à la journée, c'est 60 à 70 cavaliers à la journée.
Ah, waouh! Ça représente
énormément. Alors qu'en concours hippique, vous faites 300 cavaliers en 2 heures, quoi, ou 3 heures, ou 4 heures. On n'est pas dans la même zone. C'est pour ça que là aussi, le dressage est une case un peu à part.
Ouais. Mais ça, on se spécialise après. Après, c'est fini, on ne peut plus en changer.
On fait ce qu'on veut. Si demain, moi, je suis en train de passer des barres au sol, ça m'amuse beaucoup. Mon cheval, il saute des barres au sol.
C'est bien. C'est-à-dire, si on fait du dressage, on peut un jour dire...
On fait tout ce qu'on veut. On peut faire de la voltige. Alors, voltige, moi, à mon âge, c'est mort.
Ça va être un petit peu plus compliqué.
C'est mort. Mais un gamin peut faire tout ce qu'il veut. Et avec le même cheval, parce que quand c'est pas très haut, il peut faire du dressage, il peut faire du CSO, il peut faire de l'équipe...
Du polo, dont on a parlé aussi.
On peut faire du polo. Voilà. Alors là, c'est encore une race de chevaux à part.
Ouais. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Parce qu'il y a aussi des races de chevaux en fonction des disciplines aussi.
Non, CSO, dressage, même combat.
D'accord.
Polo, un peu différent. Voilà. Parce que ce sont des chevaux qui demandent des accélérations comme une Lamborghini et un freinage comme une...
Comme une Lamborghini aussi.
Comme une Lamborghini aussi. Voilà. Et ils savent, le polo, ils doivent tourner quasiment sur place. Donc, ils ont des ligaments qui sont différents. C'est tout à fait des chevaux totalement différents. Nous, nos chevaux en CSO, ils ont des tendons faits d'une manière qui est un peu différente du dressage, mais là, c'est surtout pour le haut niveau.
Oui. L'alimentation, ça se passe comment? Alors, on les alimente en fonction de ça?
Alors, les
comme chevaux... Comme un athlète
Absolument. Les chevaux sont des herbivores. Donc ils mangent ce qu'ils aient. Si on leur fout la paix et qu'on leur demande rien, on les met à l'herbe et là, ils ont le nez dedans, ils sont ravis. Ils broutent en moyenne 14-15 heures sur 24, quand on les met au pré, Ils dorment debout, ils mangent.
Ouais, ça c'est vrai qu'ils
dorment debout. Ils remangent, voilà. Alors, quand ils sont dans nos clubs parisiens, on a été obligés, comme il n'y a malheureusement pas beaucoup d'herbe, on les remplace par des granulés, qui sont donc l'aspect un peu solide de la nourriture, mais ils ont du foin à volonté. Un cheval rarement se rendra malade parce qu'il aura trop mangé. C'est assez rare. Ça peut arriver, faire une fourbure, mais ça c'est rare, c'est des cas dont on ne parle pas. Mais normalement, ils ont du foin à volonté, ils ont des granulés. Et je vous dis, au point du bien-être, ils sont souvent mieux soignés que nous. Avec, on prend pour eux, on essaye de faire pour ce qu'il y a de mieux, d'une manière générale, et que ce soit pour les pieds, les dents, tout ça. Mon cheval a plus de couverture quasiment que moi de robe. Parce qu'il a des couvertures en fonction du temps, la pluie, s'il fait 10 degrés, 15 degrés, qu'il fait moins 5, etc. On s'occupe d'eux des enfants de la maison.
C'est ça, ce sont des membres de la famille à part entière.
C'est des enfants de la famille,
bien sûr. Et si je peux me permettre, aujourd'hui, je crois savoir que dans les clubs d'équitation, justement, il y a aussi tout un accompagnement, une éducation qui est donnée aux enfants pour justement apprivoiser le cheval, le bien-être animal. Justement, on les prépare, on leur apprend à caresser le cheval, à le brosser. Donc, il y a tout un lien qui est créé. Et je pense que c'est important de le souligner. Et j'avais aussi une question sur le profil justement des pratiquants d'équitation. Vous, qui avez cette expérience, quelles sont les observations que vous avez pu faire sur l'évolution du profil des pratiquants, justement ? Puisqu'on parlait justement tout à l'heure de l'ouverture, de l'accessibilité de ce sport à...
De plus en plus, on essaye de faire venir des personnes différentes, c'est-à-dire que des personnes qui ont des handicaps retirent des bienfaits extraordinaires.
Et ça marche très bien,
Ça marche extrêmement bien. L'inclusion des personnes en difficulté motrice, par exemple, est extrêmement importante. Tous nos clubs ou dans tous nos départements, nous avons ce qu'on appelle un équilève. Un équilève, c'est une espèce de pas ascenseur, mais une manière de facilement faire monter un enfant handicapé sur un cheval. Et ça, c'est très important pour nous parce qu'il y a non seulement le problème de motricité, mais il y a des problèmes aussi, ça peut être des problèmes d'enfants autistes, ça peut être des malvoyants. Moi, j'ai vu une fois une reprise de dressage pour une cavalière malvoyante. Alors, un dressage, vous savez, c'est un énorme rectangle de 20 par 60, donc c'est très grand, avec des lettres. Et on va de lettre en lettre. La malvoyante ne peut pas aller de lettre en lettre. Donc, il y a une personne à chaque lettre qui répète la lettre en disant A, 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 A. Ça veut dire qu'elle arrive en A. Elle va en B. Il y a une personne en B qui dit B, 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 B. Et la personne malvoyante se dirige comme cela. C'est poignant. Ça m'est arrivé de voir ça plusieurs fois. C'est juste poignant. Nous avons des Laetitia Bernard, dont on parlait tout à l'heure, qui est malvoyante, France, qui saute extrêmement bien, qui a sauté, je ne sais pas si elle continue à sauter, mais qui a sauté. Moi, je l'ai vue, en fait, elle suit un cheval. C'est-à-dire que devant, il y a un instructeur, par exemple, qui a un cheval qui marche bien, et elle entend où est le cheval, et l'instructeur lui dit « on y va ». Ils ont entre eux un langage. Et elle saute à ce moment-là. Le cheval qu'elle a, il voit aussi qu'il y a un obstacle et il va le sauter. Et l'instructeur devant lui permet de le diriger. C'est extraordinaire.
Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est que le cheval, le monde et le milieu du cheval est pourvoyeur d'emploi.
Alors, absolument, absolument, absolument. Et difficile à trouver. C'est un problème. Alors, je parle en région parisienne. Et je parle même à Paris.
Il y en a qui veulent vraiment vivre de leur passion, travailler dans le cheval.
Exactement.
Mais
le problème de Paris, au niveau des emplois, nous avons de très bonnes formations qui sont faites. Nous avons un secteur formation extrêmement important. Mais le gros problème, c'est le foncier. Le gros problème, c'est le logement. Le gros problème, c'est que ce sont des emplois pas tellement rémunérés, il faut dire ce qu'elles sont. On sait tous que
mais
vivre une passion...
Ils peuvent partir à la campagne, ils peuvent partir en province.
Oui, oui, moi je vous parle de Paris. Paris, se loger à Paris est extrêmement difficile.
C'est vrai.
Donc, les soigneurs dans les clubs équestres, c'est souvent compliqué à trouver parce que l'adéquation entre logement et le club équestre, c'est difficile à matcher les deux matchs ensemble.
Et est-ce qu'il y a une réflexion justement sur ça, peut-être avec des facilités dans... Une réflexion sur un développement futur.
On va demander ça à M. Grégoire.
Voilà. Pour savoir si, si
nouvellement,
justement...
Nouvellement nommé. Voilà. Vous avez tout beau, tout neuf, il va peut-être trouver une solution.
Si justement, il peut y avoir une facilité pour les futurs professionnels ou les professionnels qui veulent se loger.
C'est compliqué. Et voilà. J'avoue que dans Paris même, c'est compliqué.
Évidemment. Mais s'il peut peut-être y avoir une mise en place d'un dispositif qui pourrait faciliter ça, ça serait
idéal. Nous sommes ouverts à tout ce genre
ça peut être une piste.
Je pense le demander demander à M. Grégoire, il n'a que ça à faire.
On va lui demander alors.
Mais non, non, je pense que c'est
oui,
un
on le croise assez
compliqué.
Souvent. Donc,
on lui demandera.
On les croise assez souvent.
Moi, ce que j'ai rencontré l'autre jour, Maxime Sauvage.
Oui, le nouveau qui a remplacé Pierre Rabadan.
Qui a remplacé M. Rabadan.
Je l'ai vu hier aussi, tiens.
Pierre Rabadan ou Maxime Sauvage?
Non, Maxime Sauvage au Clarins. Bah oui.
Je le rencontre, je rencontre au mois de juin avec le président de la fédération. Il a la grande gentillesse de bien vouloir nous recevoir pour parler de l'équitation à Paris. Ça peut faire partie justement des questions qu'on lui poserait. Et je le revois dans le soir au mois de juin. Alors j'ai une chance, c'est qu'il monte à cheval et son fils aussi pendant les vacances.
D'accord.
Ça, c'est pas
donc,
mal, ça.
Il connaît les bienfaits de l'équitation. Ouais. Et moi, je l'avoue que je l'ai rencontré dans le cadre d'une école dans le 20e, où j'allais avec mes petits poneys Kloukoum, là. Et il a vu ce que c'était et l'intérêt des enfants pour voir ces animaux vivants dans leur cour, parce qu'ils ne connaissent pas tout ça.
Ouais.
Et il a vu le bienfait que ça apportait. Et j'espère vivement arriver à trouver une... Une aide.
Voilà. Juste avant d'enchaîner sur le char à voile, est-ce que ces belles images des Jeux qu'on a vécues olympiques et paralympiques, notamment au château de Versailles, ça vous a été bénéfique dans les clubs?
Absolument. Ouais. Je pense que ça a eu une petite retombée. C'est très difficile à quantifier. Hein. Mais c'était tellement beau, tellement bien organisé, tellement extraordinaire. Je pense que ça a eu effectivement une influence auprès de certains enfants dans une famille pour ne serait-ce que découvrir. Ce qu'il faut avant tout, c'est passer le pas d'aller dans le centre équestre. Après, il faut laisser faire l'odeur, il faut laisser faire l'ambiance, il faut laisser faire, voilà. Il faut les inciter à passer ce pas.
Alors, vous avez un point commun avec le char à voile, c'est le touquet, je crois.
C'est compliqué, le char à voile, le touquet.
Alors, Christian,
je ne sais pas si je dois rester.
Je vous ai vu passionné, là, quand même, ça vous intéresse
Oui, parce que précédemment, avant d'être à la Fédération française de char à voile, j'étais aussi en poste au sein d'une fédération spécifique, qui est la Fédération française handisport, qui avait aussi la délégation sur le para-équestre. Et depuis, c'est la Fédération française d'équitation qui l'a récupérée, donc... je connais bien la discipline pour l'avoir accompagnée sur les Jeux paralympiques d'Athènes et avant aussi Athènes.
D'accord, oui. Vous voyez, comme
Laetitia Bernard, on la connaît aussi et vous avez raison de parler d'elle en des termes élogieux. La pratique d'une personne en situation de handicap est, d'une manière générale, on doit combattre contre pas mal d'éléments, que ce soit architectural et autres. Et d'arriver au sport et de faire des sports comme celui-là, ça démontre souvent de belles qualités humaines.
Et qu'est-ce qui vous fait passer au char à voile alors, en tant que DTN?
D'abord, moi je suis cadre d'État jeunesse et sport, je ne suis pas élu comme ma collègue, ni présidente. Et en tant que cadre d'État, nous avons des missions au sein de fédérations qui peuvent être des périodes assez longues comme parfois des périodes courtes. Et j'ai fait un peu plus de 35 ans dans cette même fédération. Était venu le moment d'aller chercher une autre activité au sein du ministère des Sports.
Alors, quand j'ai parlé à notre invité qu'on aurait quelqu'un du char à voile, elle m'a dit « on fait du char à voile en Île-de-France ?»
Oui.
Alors,
je pensais que vous m'invitiez au départ pour ça. Vous
bien sûr, c'est pour ça.
Mais heureusement que ma collègue est là. Parce que la Fédération française de char à voile a cette image que vous connaissez tous d'une activité de bord de mer, de littoral, et que l'on peut pratiquer que dans ce contexte. Et la Fédération développe maintenant, depuis une dizaine d'années, un nouveau modèle de pratique qui a un nom encore un peu, peut-être qu'un jour un naming viendra un peu appuyer ça, mais on appelle le inland, c'est-à-dire à l'intérieur des terres. Parce que là aussi, ce sont des potentiels de développement et c'est surtout se rapprocher au plus près des bassins de vie, des personnes qui, parfois, ne partent pas en vacances. On sait les statistiques nationales, un enfant sur trois ne part pas en vacances. Donc, à minima, nous, on ne touchera pas un enfant sur trois, ne verra jamais ou ne s'assiera jamais dans un char à voile. Donc, c'est aussi dans cette optique de développement que la Fédération a développé cette pratique-là.
La Fédération qui est basée en Essonne.
Essonne, elle a fait ce choix. Alors, ces bureaux ont toujours été à Paris, dans les locaux d'ailleurs de la Fédération française de voile, une forme de proximité avec cette discipline-là. Et lorsque ce projet dit Inland a été officiel au sein de la Fédération a essayé de s'installer dans un environnement où elle pouvait faire vraiment la démonstration et la preuve de cette pratique dite à l'intérieur des terres. Et donc, on a répondu à un appel d'offres de l'agglomération Cœur de l'Essonne et d'accord. de la commune du Plessis-Pâté mm-hmm. pour exploiter les anciennes pistes d'aviation dans l'Essonne. Il y a donc 4 kilomètres de pistes.
Il se levait à Bretigny, là-bas.
Voilà, bah, voilà nous ouais. y sommes. Ouais. Et la fédération a fait ce choix d'installer ses bureaux, ses équipes techniques, ses salariés. Et on a ouvert un centre permanent de découverte et d'initiation de char à voile, ouvert toute l'année. On a un site internet ouais. de réservation et là aussi, on est une fédération, donc on ressent très bien ce que vit la fédération d'équitation. On a les mêmes problématiques d'accès au sport, de coût de l'activité.
D'exposition médiatique peut-être
Oui, d'exposition médiatique. Et puis, on a surtout, et c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité, besoin de démontrer que le char à voile n'est pas qu'une discipline de bord de mer.
Ouais.
On peut la pratiquer partout, dès lors que vous trouvez des surfaces planes et qu'elle est exposée au vent. C'est pour ça que le char à voile urbain, ça ne fonctionne pas. Mais dès lors qu'on est sur des pratiques ou des terrains ouverts à la nature et au vent, c'est tout à fait possible de rouler.
Mais alors, vous recevez tout le monde. Là. Tout le monde vient, tout âge, voilà, il s'initie, ça se passe comment?
Je crois qu'on est un peu comme l'équitation. Ouais. Alors nous, on démarre un peu plus tard que 5-6 ans. Pourquoi? Parce que il faut toucher. Non, alors il n'y a pas de volant sur un char à voile.
Non, mais je veux dire, il y a la manœuvre. Quoi,
voilà, il faut pouvoir atteindre avec ses pieds le palonnier, qui est le système sur lequel on vient appuyer avec le pied gauche et le pied droit pour donner une direction au char. C'est le seul élément qui conditionne un peu l'accès à la pratique. Et les chars, on n'a pas, nous, de comme vous avez appelé tout à l'heure, de poney, de Shetland. Et oui, mais vous avez rajouté un terme derrière.
Loukoum.
Voilà, on n'a pas de chars à voile loukoum. Ils sont tous normés selon des jauges. Et donc, c'est 8 ans pour nous. Et il n'y a vraiment pas de limite d'âge parce que on a une population chez nous qui pratiquons jusqu'à, on dit, la formule, c'est 7 à 77 ans. Mais ça va bien au-delà de 77 ans et en compétition ou dans des pratiques de loisirs aussi.
Donc, il y a des chars à voile qui sont disponibles avec des moniteurs qui guident, qui initient.
Alors, là, pour la région parisienne, sur ce centre, la fédération ensuite, c'est 90 structures de bord de mer qui partent du littoral des Hauts-de-France. Il y a pratiquement 100% du littoral qui est aujourd'hui exploité par une structure qui offre une activité char à voile. Du littoral Hauts-de-France en passant par la Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine et même Occitanie, même si l'Occitanie, c'est un peu moins connu, mais ils ont de très grandes plages occitanes en tout cas. Et donc, on peut pratiquer sur l'ensemble du littoral assez facilement, mais pour des Parisiens ou des Franciliens, il faut se déplacer.
Il faut prendre une licence après dans un
club. Non, alors on a le même fonctionnement. Les fédérations, elles n'ont pas inventé la poudre. Elles savent mettre en place des dispositifs qui marchent bien. Nous, c'est 450 000 personnes qui pratiquent le char à voile de façon annuelle. Parmi ces 450 000, il y a 2 000 personnes qui ont choisi d'en faire un sport à l'année avec une licence annuelle.
Donc ça, ils prennent à la Fédération
Ils
française.
Le prennent dans un club, dans les 90 trucs. Chez nous, la licence, elle est à 60 euros. Et parfois, il y a la cotisation au club qui est rajoutée.
Il n'y a pas un équipement après qu'il faut
Non, l'équipement, c'est des chaussures fermées pour être à l'aise sur son palonnier.
Et l'engin, l'engin, il est prêté.
Alors, dans les 90 structures, vous avez ils sont propriétaires de chars, donc ils peuvent mettre du matériel à disposition parce qu'ils font aussi beaucoup d'enseignement à l'année auprès aussi bien chez les scolaires. Sur les 450 000, il y a plus de 60 000 projets éducatifs avec les scolaires. Souvent, c'est les établissements de proximité qui viennent, qui ont une découverte un peu le projet que vous voulez porter sur Paris. On a aussi des projets, les particuliers qui viennent faire des séances. C'est ce qu'on appelle le tourisme sportif. Les personnes viennent en vacances. Certains ont des maisons secondaires et savent qu'il y a du char à voile, donc ils reprogramment des séances. Parce qu'en pleine saison, c'est ce qu'on nous dit souvent, les gens nous disent on aurait aimé faire du char, mais les créneaux sont pleins. Et, ah, et c'est vrai que c'est on a une activité saisonnière qui est, et avec ses problématiques aussi, c'est, nous aussi, on a une vraie difficulté à recruter des moniteurs.
Oui, parce que vous
on
êtes aussi combien, des belles... combien au centre?
Dans les...
Ouais, de moniteurs, de salariés, de...
Ah, nous, la fédération, c'est 5 salariés.
Ouais.
Et puis, de moniteurs, c'est 150 salariés. Mais l'ensemble des structures, ça représente à peu près 350 cartes pro de personnes qui encadrent l'activité de façon permanente.
Et ça, vous avez du mal à trouver?
Oui, parce que nous aussi, ce ne sont pas des activités très bien rémunérées. Alors, c'est pas le. Mais c'est surtout un métier qui est très difficile. Mmh. Moi, je suis dans ce milieu que depuis 4 ans et j'avais une image du moniteur, lunettes de soleil, les shorts, les tongs. Venez, j'ai eu le plus beau métier du temps. Quoi.
Ouais.
Et en fait, ce n'est pas ça du tout. Alors, les moniteurs sont très contents, mais il y a un gros turnover dans la discipline parce que. Toute saison, il faut aller sur la plage. Lorsqu'il pleut, il y a beaucoup de maniement de matériel. Il faut ranger, dégrer, gréer les chars, les parquets, les ranger, les nettoyer. Ce n'est pas le client qui le fait, parce que le client, lui, s'acquitte d'une séance et généralement, il faut que le char soit prêt, il roule et voilà. Même s'il y a les passionnés, ils essayent de comprendre aussi la technique, le matériel et comprendre comment le char se grée. Mais c'est un métier qui est difficile physiquement et on a beaucoup de moniteurs, hommes et femmes, qui souffrent de problèmes de dos. Et donc, avec un gros turnover. Alors, il y a aussi la possibilité pour le moniteur ensuite d'avoir, prendre des fonctions différentes dans la structure, chef d'équipe, il est un peu moins sur le terrain, il gère des moniteurs ou il devient directeur de base. Mais le jeune moniteur, alors, il est cheveux longs, lunettes de soleil, brun, teinté.
C'est l'image.
Voilà. Mais ça reste quand même, malgré tout... une belle discipline à encadrer.
Et quelle est la formation qui est donc dispensée aux futurs moniteurs et comment y intégrez-vous justement la prévention sur la santé, sur les risques du métier? Et voilà.
Alors on a deux diplômes qui accèdent au métier. Le premier diplôme, c'est un diplôme de branche, le CQP, certificat de qualification professionnelle, qui donne un premier niveau d'encadrement avec des prérogatives limitées. Il peut œuvrer sous la responsabilité d'un moniteur de niveau 4. Et l'autre diplôme, c'est un brevet d'État, comme l'ensemble des fédérations. On est soumis à des diplômes professionnels habilités par l'État. Et c'est avec Jeunesse et Sport et France Compétences sur la partie branche de compétences que l'on calibre toutes ces questions de bien-être au travail, de sécurité. Et ça fait partie des modules dans le cadre de la formation où on attire aussi l'attention sur les gestes, les bonnes pratiques pour déplacer un char. Il faut savoir qu'un char, c'est bas. Ouais. Et lorsque le char, il faut du vent pour que ça roule.
Alors,
quand
il n'y a pas de vent.
Bah pourquoi il n'y aurait pas de vent à Bretigny?
Pas beaucoup.
Je pense que ça doit souffler.
Mais je vous embête.
J'ai bien compris. Je vous vois en face de moi. Si. Alors, c'est un sport, c'est l'école de la patience. Vous pouvez vous acquitter d'une séance ou même dans un club avec une licence annuelle, sortir votre char, le gré. Et puis le vent, eh ben, il va tomber. Alors, c'est des spécialistes de la météo. Ils consultent toutes les stations. Ils savent heure par heure. Ils ne viennent pas par hasard. Mais ceci dit, vous pouvez avoir une journée de repos et dire, ce jour de repos, je vais mettre mes baskets. Et au lieu d'aller courir, je vais faire ma séance de char. S'il n'y a pas de vent, effectivement, c'est une partie remise. Mais ça fait partie de cette culture de ces pratiquants pilotes qui acceptent ça, y compris chez les jeunes. Moi, j'ai été... impressionné par, on dit aujourd'hui, les jeunes ont moins de patience, il faut que tout arrive, etc. Dans le milieu du char à voile, c'est totalement faux. Ils ont appris à patienter parce que le vent est le moteur de leur activité. Quand il n'y en a pas, ils s'équipent, ils attendent près des chars. Et s'il n'y en a vraiment pas, ils rangent tout et puis ils vont faire des jeux dans les centres. Et pour la question du vent, sur Bretigny, il y en a. Alors peut-être, et encore, on n'a pas fait une analyse aussi fine pour dire qu'il y en a peut-être un peu moins qu'en bord de mer.
Oui, parce qu'on sait que c'est une des bases de ce sport quand
Ça pour le coup, c'est la base.
On joue
pas de vent, ça ne roule pas.
Et les petits engins, ils sont comment?
Alors il n'y a
tout
pas
nouveau,
que des
beau,
petits
tout
engins.
Tout moderne, il y a des améliorations.
Oui, oui. Ouais. Alors, vous faites allusion peut-être au temps où c'est Louis Blériot qui a amené la forme de char à voile, qui était aéroplage qui ressemblait un peu à un avion sur sol. Hein. Mais depuis, les chars sont bien modernisés.
Aérodynamiques.
Ouais. Il y a un côté aussi qui pour attirer aussi les jeunes, très coloré. Les voiles se sont transformées. Bah, ouais. On est sur des voiles qui valorise aussi la pratique. Mmh. Et j'ai peut-être perdu la question.
Non, non, c'était... ça avait beaucoup bougé.
Oui, alors on n'a pas que des petits chars. On a 9 catégories de chars différentes. Mmh. Ça va du petit char qu'on peut quasiment mettre dans son coffre. C'est aussi rendre démocratique un peu l'accès à ce sport et pas devoir aller au centre chercher un grand char que je ne peux pas mettre ailleurs que dans ce centre-là. Ouais. Donc on a une gamme de petits chars dits d'enseignement. Ouais. Très accessible, c'est ceux qu'on a sur le centre école de la BA 217 au Plessis. Et puis, vous avez des très grands chars qui sont un peu l'histoire de cette fédération, qui font plus de 4 mètres, des très grands mâts à 5,60 mètres et qui n'ont pas des voiles de nautisme, mais des très grandes voiles et qui atteignent des vitesses...
C'est ça, quelle vitesse on peut atteindre ?
Un record sur sable, il est à 151 km/h.
Ah ouais,
ouais.
Voilà.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant.
C'est détenu par un Français. France est leader mondial, alors ça s'explique avec plein de raisons, c'est que déjà la France a un grand littoral, ce qu'il n'y a pas tous les pays européens ni mondiaux, mais aussi c'est la structuration du sport en France. On a la chance d'avoir cette organisation du sport en France avec un ministère, une agence du sport qui accompagne les fédérations et qui permettent cette structuration avec des moyens de cadre d'État aussi dans les fédérations et qui permettent aux fédérations de... Et on est vraiment leader mondial tant sur les aspects sportifs, performance, que développement aussi de la pratique. La plupart des fabricants de matériel sont issus de la France.
Est-ce que ça permet justement... Bon, c'est une question un peu fun pour conclure. Est-ce que ça peut permettre de faire des déplacements pour des joueurs de foot à travers toute la France? Je pense que vous avez la référence. Galtier et Mbappé, pour ceux qui se souviennent. Une question un peu bizarre qui était posée en conf de presse par un confrère à l'époque, et Christophe Galtier
qui était dit, exceptionnel en char à voile.
Comment est-ce que vous avez pris la nouvelle à la
Fédé? Pendant des semaines, quelques jours en tout cas, voire des semaines, sur un mois, le mot char à voile a été le mot le plus recherché sur Internet, hashtag char à voile. Et donc, nous aussi, on ne peut pas dire que c'est eu un boost sur nos licences ou sur la pratique un peu saisonnière. Mais en tout cas, vous parliez tout à l'heure de rayonnement, de visibilité. Ça, c'est sûr que pendant un temps, on nous a parlé du char et on nous a ramené à cette anecdote avec Christophe Galtier. Nous, on a trouvé ça... ni moqueur par rapport à la fédération. On a plutôt bien apprécié le message. C'était une belle exposition pour nous. On était contents.
Parfait alors.
Et une dernière question, vous qui êtes DTN, comment se passe l'entraînement hivernal hors saison des sportifs de haut niveau?
Alors, nous, on n'a pas la délégation sur la reconnaissance de haut niveau.
D'accord.
On n'est pas une discipline olympique, malheureusement. On avait.
À quand?
Ce sera pas Los Angeles.
En tous les cas, pour la pratique.
Après, on a une pratique
exigeante
compétitive. Ça n'empêche pas aux disciplines non olympiques d'avoir une pratique compétitive avec des équipes de France. En fait, pendant très longtemps, on parlait du char à voile en saisonnalité.
C'est ça.
On parlait pendant les vacances, l'été. Oui. Et ce qui n'est plus du tout le cas, parce qu'avec cette affluence des 450 000 tourismes sportifs, on a maintenant une saisonnalité pleine et nos pilotes roulent toute l'année. Il y a plus de... On a une saison qui démarre au 1er juillet, qui se termine au 30 juin, avec une trentaine de courses à l'année, des sélections pour partir sur des Europes ou des mondes.
Et ils peuvent partir dans le monde entier en plus.
Ils ont été très loin. Ouais. On va encore en Argentine.
Ouais. Hawaï, tout ça.
Hawaï, je ne connais pas suffisamment bien les plages là-bas. Je pense qu'elles sont faites pour se reposer. Moi, pour faire du char.
Mais d'ailleurs, pour revenir justement, parce que vous avez évoqué les équipes de France, est-ce qu'il y a des sportifs justement qui pourraient servir de tête de gondole pour faire connaître le sport au niveau national? On peut, en équitation, on peut quand même citer Kevin Staudt par exemple. Est-ce qu'il y aurait une sorte de Kevin Strutt, si je puis dire, mais en char à voile,
oui,
qui
oui,
puisse
oui,
aider à la démocratisation du sport.
Alors, on est une pratique mixte, aussi bien en compétition.
D'accord, comme l'équitation.
C'est ce qui fait aussi la force de ces disciplines-là. Y a pas de, voilà, les filles et les garçons sont sur les mêmes lignes de départ. On se permet simplement de sortir un classement féminin, un scratch, un classement scratch, c'est le classement tout sexe confondu et un classement féminin. Mais c'est pas rare de voir des femmes dans le classement scratch, d'être devant des hommes selon les conditions de temps.
Vous auriez quelques noms à nous donner justement parmi les meilleurs en France ?
Oui, alors si j'écoute, ils vont pas être, il y en aurait beaucoup. Non, il y a vraiment de belles figures et ce sport c'est beaucoup rajeuni.
Oui.
Et on a de beaux pilotes garçons et femmes et jeunes filles qui seraient très représentatifs de d'être une icône pour nous représenter. Et si vous voulez un nom, je pense à Maury Martin, qui est aussi qui est un moniteur. Qui est un pilote et qui a fait pas mal de showcase, qui est assez commence à être reconnu.
D'ailleurs, à la soirée des champions, il y avait une très belle délégation du char à voile avec sa présidente. Oui. Et ils étaient présents, ils étaient là. Voilà.
Oui, on y était.
Vous y étiez.
Oui, on y était. Oui. J'y étais aussi.
J'ai croisé votre présidente. Très belle délégation, très présente, en nombre.
Oui, c'est aussi la.
Et c'est bien ça aussi pour la visibilité.
Que nos sportifs qui n'ont pas cette chance d'être invités à l'Élysée au retour des Jeux Olympiques ou Paralympiques, d'être présents dans d'autres endroits où on les félicite, on les reconnaît.
Et là, vous étiez, exactement. Et là, vous étiez.
On vient en masse pour montrer aussi qui on est et c'est faire parler notre discipline. Et je suis content que vous l'ayez aperçu comme ça.
Et là, vous étiez d'ailleurs justement avec les autres sportifs qui ont un peu plus, qui ont plus de visibilité médiatique, les frères Lebrun,
absolument.
Je me rappelle très bien de cette soirée. Et,
Et qui aura lieu le 23 juin prochain. Et on y sera encore.
C'est le jour olympique, le poids, la taille, c'est important. Quand on monte dans le char à voile.
Alors,
vaut mieux qu'on fasse 1m60, 50 kilos.
C'est aussi une des forces de la discipline, c'est que le poids peut être un avantage.
Oui.
Lorsque vous avez des temps très forts, où le vent va souffler fort, votre poids va jouer sur la stabilité un peu de votre char et vous n'aurez pas besoin de lester. Cette même journée, des petits gabarits comme moi, nous serions un peu gênés, handicapés et serions à la recherche de lest, c'est ce qu'on appelle le lest.
Ouais.
Donc on va chercher dans des poches un peu de sable qu'on rajoute à nous aux pieds pour lester le char parce que sans lest, le char, si vous bordez, il part très vite. Il s'envole pas, mais il décolle assez vite. Et comme le principe, il faut que les trois roues soient au sol pour gagner en efficacité, il faut éviter que le char décolle un petit peu. Donc le poids peut être un avantage, comme dans les petits temps, effectivement, un désavantage. Mais
Daniel, pour l'équitation, le poids, la taille, ça n'a pas d'importance.
On a un souci. On a un gros souci. Parce que la malbouffe joue des problèmes chez les enfants. Et là, il arrive à des moments donnés, on se dit cette personne ne devrait pas être sur un cheval ou voir un poney. Parce qu'elle est trop forte. Dans l'autre sens, ça pose pas de problème.
Oui, bien sûr.
Mais dans la malbouffe joue de gros problèmes au niveau des poneys notamment, parce que les enfants sont pas, c'est pas adéquat, c'est pas le bien-être animal n'y est plus.
Très bien. On est émission de tous les sports, donc vous savez que notre ami Marius, il est resté devant la télé tout le week-end. Il va donc nous dire ce qui s'est passé, Marius, hors foot naturellement, ce week-end.
Bien sûr.
Et tu commences, je crois, par la moto.
Oui, c'est ça, exactement. On ouvre ce journal.
Beaucoup de chutes.
Avec le moto GP d'Espagne. Et c'est Fabio Ginantonio qui a remporté le Grand Prix. L'Italien s'est imposé devant Fermín Aldeguer et Francesco Bagnaia. Comme tu l'as dit, Philippe, la course a été marquée par plusieurs grosses chutes impliquant notamment Johan Zarco, Pedro Acosta et Alex Marquez, provoquant deux drapeaux rouges. On rassure, Johan Zarco va bien. Bon, il s'est apparemment rupture des ligaments croisés et fracture du péroné, mais plus de peur que de mal pour lui. Au classement du championnat du monde, on a toujours Jorge Martins, Fabio Ginantonio et Pedro Acosta. Maintenant en cyclisme, et c'est le Tour d'Italie sur le Giro masculin, le Danois Jonas Vingegaard a remporté la 9e étape. Au classement général, c'est toujours le Portugais Afonso Eulalio qui conserve le maillot rose,
mais son avance diminue,
ce que j'allais dire. Donc il est toujours premier, Jonas Vingegaard est à 3 minutes 05 et Félix Gall à 3 minutes 28. En tennis, maintenant, on a eu l'ATP Rome, l'Italien, Yannick Sinner a remporté le Master 1000 en battant le Norvégien Casper Ruud 6-4-6-4. Sinner complète ainsi sa collection avec un 9e titre
c'est
en indécent. Master 1000.
Indécent.
Ouais, c'est incroyable, hein, Roland Garros arrive. Donc, oui. Voilà, ouais. Et on a eu aussi le tournoi Clarin Paris Racing Lagardère.
On y a passé toute la semaine.
Et c'est la Française.
On prépare un podcast dessus. Eh oui, par abandon, elle était.
C'est la Française Diane Paris qui a remporté le trophée. Elle menait 6-3, 3-3 lorsque l'Américaine Madison Keys a abandonné.
Ouais. Par précaution, mais elle était frustrée. On l'a interviewée, elle était vraiment très très frustrée d'avoir gagné par abandon.
Par abandon.
Et en plus,
ouais,
elle a même bénéficié d'un forfait dans son parcours, donc c'est pas dingue quoi.
On a eu aussi du tennis de table, hein, et les frères Lebrun et leur club de l'Alliance Nîmes-Montpellier se sont inclinés malheureusement en finale de la Ligue des Champions face aux Allemands de Sarrebruck sur le score de 3-2. Alexis Lebrun avait pourtant parfaitement lancé son équipe en battant le Chinois Fan Zedong. Hein. Félix Lebrun, il a ensuite également dominé le Chinois pour offrir un match décisif à son club, mais lors de la cinquième et dernière rencontre, le Suédois Truls Morgaard a battu Alexis Lebrun en 4-7, offrant ainsi à Sarrebruck un quatrième titre européen consécutif.
Club de Nîmes-Montpellier, malheureusement.
Ouais, malheureusement. En rugby, maintenant, on a le tournoi Destination Femmes.
Elles n'y arriveront jamais.
L'Angleterre a remporté le tournoi Destination en battant la France 43-28 à Bordeaux dans le match décisif pour le Grand Chelem. Classement final donc, l'Angleterre, la France et l'Irlande qui finit en troisième position. On a aussi du top 14, 24e journée, et c'est une large victoire pour le Racing 92 face à Toulon, 43-28. Le Stade français s'est également imposé très largement contre Montauban, 73-25. Au classement donc, le Stade français est 4e et le Racing 92 est 7e. Mmh. En basket, Betclic Elite, la 30e et dernière journée. Hein,
Paris en tête.
Paris Basketball a terminé la saison régulière par une victoire 87-67 contre Villeurbanne. Nanterre, malheureusement, s'est incliné 79-66 face à Cholet. Donc, classement final de la saison régulière, hein, Paris, Monaco et Nanterre. Ensuite, on a eu aussi la finale du championnat de France femmes. C'est le Basketland qui est devenu champion de France après sa victoire 53-50 sur le parquet de Bourges. Lors du troisième match d'appui décisif, pour rappel, au premier match, Bourges avait battu Lande 67-49 et Lande avait battu Bourges 59-54 au deuxième match. On ferme maintenant ce journal par du handball et on a eu le barrage des qualifications pour le Mondial 2027. L'équipe de France masculine s'est qualifiée pour le mondial après une nouvelle victoire contre la Tchéquie au match retour à Orléans 36-31. Pour rappel, hein, les Bleus avaient déjà largement remporté le match aller en Tchéquie 37-26. En championnat de France femmes, la 24e journée, le Paris 92 s'est incliné 29-26 contre Brest-Bretagne. Lourde défaite de Stellin Samor face à Metz 50-25. Rendez-vous compte. Au classement final, Paris 92 est 8e, Stellin Samor 12e. Et pour terminer, on a eu la Ligue européenne féminine
et
de handball.
Cocorico.
Dijon a remporté la Ligue en battant les Allemandes de Thuringer 29-25. Grosse performance des Dijonnaises.
Ouais, voilà. Merci en tout cas, Marius, pour ce journal des sports. Et puis,
il y a une petite annonce à faire. Donc,
demain,
au Krebs Île-de-France, à Châtenay-Malabry, il y aura la remise officielle du label Grand INSEP pour justement le lycée intégré. Et c'est unique en France, ce lycée, puisqu'il y a un double projet sportif. C'est viser l'excellence sportive et scolaire. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. 100% de réussite depuis l'ouverture du lycée Emmanuel Mounier. Donc c'est dans le Krebs, il y a une annexe du lycée Emmanuel Mounier. C'est également 30% de mentions et 30 jeunes anciens ou actuels pensionnaires du Krebs Île-de-France qui sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc un très beau projet. Et puis derrière, justement, de ce projet, il y a aussi des histoires de vie, des adolescents qui sont éloignés de leur famille. Et c'est un rêve, c'est un quotidien qui est rythmé entre entraînement intensif, compétition et exigence scolaire. Donc demain, 15h30, au Krebs Île-de-France de Châtenay-Malabry.
Voilà, avec la présence de la présidente
Valérie Pécresse. Voilà, tout à fait, avec la présence de Valérie Pécresse.
Voilà. Ton coup de cœur, coup de gueule.
Eh bien, mon coup de cœur, coup de gueule, on va commencer d'abord par le coup de cœur et c'est, on va aller sur le foot. Je suis désolé, vis-à-vis de notre invité.
On va en parler après, de toute façon. Donc,
voilà, j'ai voulu faire, en gros, dans ce coup de cœur, un hommage global à notre chère Ligue 1, puisque on a conclu ce championnat particulièrement disputé. Hein. Il y a eu du suspense de bout en bout, en haut comme en bas du classement, avec la victoire finale du Paris Saint-Germain, hein, qui conserve son titre, cinquième titre consécutif, dans une saison assez particulière, hein, avec la nouvelle image de champion d'Europe et avec cette préparation physique tronquée, quasiment 23 jours. Hein, on parle de 23 jours seulement de repos complet entre la précédente saison et la saison actuelle, qui vient de se terminer. Donc, un grand bravo au PSG d'avoir tenu la cadence. 14e titre du championnat de France pour le Paris Saint-Germain. Un grand bravo à Lens aussi pour une saison qui est potentiellement peut être historique et se terminer par un titre, notamment avec cette finale de Coupe de France. Il termine deuxième à 6 points seulement du Paris Saint-Germain et le mano à mano a duré sur quasiment toute la saison. Donc un grand bravo à eux pour avoir été un adversaire de taille face à l'ogre parisien. Mention spéciale aussi au Paris FC qui est le promu, enfin qui fait partie des promus pour un projet, donc un projet sportif soutenu notamment par le groupe LVMH et avec Red Bull derrière, mais malgré tout qui a commencé sa saison de manière très difficile mais qui l'a bien terminé avec l'apport d'un nouveau coach pour pouvoir solidifier l'équipe et lui permettre de rester en première division, en Ligue 1, grâce à Antoine Comboiré. Hein. Je rappelle son bilan depuis qu'il est arrivé. 11 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Dans les 6 victoires qu'on peut noter, il y a notamment 2 victoires face au Paris Saint-Germain. Donc, ce n'est pas rien. Mention spéciale aussi pour l'AJ Auxerre qui s'est maintenu de justesse lors du dernier match, donc la 34e journée de Ligue 1, en battant donc le LOSC 2-0. Mais cette victoire, elle va plus loin, puisque c'est un projet de jeu qui est enfin récompensé. C'est une équipe qui sait jouer au foot, qui joue un beau football.
C'est ce qu'on a dit toute la saison, hein, que vraiment, ils méritaient de se maintenir. Hein.
Ils méritaient vraiment de se maintenir. Et à ce niveau-là, je leur dis un coup de chapeau, puisque ils ont réussi à accrocher le maintien direct avec l'un des plus petits budgets de Ligue 1, ce qui a permis notamment de pousser... on va dire le GC Nice parmi les flops de cette saison, hein, puisque je mets dans cette catégorie l'Olympique de Marseille, Nice, Nantes, mais aussi l'AS Monaco. Hein, c'est pour moi font partie des déceptions de cet épisode pour plusieurs raisons diverses. Donc ça, c'était pour mon coup de cœur. Donc un hommage complet à notre chère Ligue 1 que l'on décrit comme la Ligue des fermiers, comme on dit aussi mal hors de nos termes, mais qui est un super terroir de talent avec pas mal de nouvelles têtes qu'on a découvertes. Cette saison. Une dernière stat, 2,82 buts marqués en moyenne sur chaque match de Ligue 1 depuis le début de la saison. C'est le deuxième championnat le plus prolifique d'Europe derrière la Bundesliga, le championnat allemand. Ouais. Et ça, c'est pas rien pour le coup.
D'ailleurs, on fera un grand bilan de la saison dans 15 jours.
Exactement.
Voilà, donc ça sera impeccable. Ouais.
Et donc, ça, c'était pour mon coup de cœur cette semaine. Mon coup de gueule, par contre, là, je vais essayer de rester poli parce que très clairement, ça m'a passablement énervé. C'est la remise du trophée de vainqueur. Ça s'est passé dans des conditions absolument abominable en termes d'image pour la ligue de football professionnel. Pour vous décrire un petit peu le truc, donc sur le dernier match de la saison, c'était entre le Paris FC et le PSG, donc derby francilien, derby parisien. Pendant plusieurs jours, ils se sont battus, le PSG, pour pouvoir célébrer leur titre de champion de France, que ce soit au Parc des Princes, dans les rues de Paris ou même au stade Jean Bouin, et dans tous les cas les demandes ont été refusées. Donc on s'est retrouvé en termes de raison, on dit que officiellement c'est pour un potentiel risque d'échauffourée avec les gens. On parle aussi d'un trop grand nombre d'événements sportifs, donc il n'y a pas assez de moyens pour cadrer tout ça. Pour moi, ce sont des foutaises, je le dis vraiment en ces termes, puisque dans cette aberration totale, on a pu comparer les célébrations de titres en dehors de la France, notamment à Porto au Portugal dans une liesse populaire extraordinaire, à Milan aussi avec la victoire de l'Inter Milan, pareil, liesse populaire fabuleuse, le titre qui a été présenté aussi à Munich par les joueurs du Bayern devant une foule en délire, ça s'est à chaque fois très bien passé, ça donnait des images exceptionnelles, puisqu'il faut rappeler que le foot reste un sport populaire avant tout, et j'ai quand même quelques souvenirs puisqu'il y a 20 ans, lorsque le grand Olympique Lyonnais des années 2000 qui marchait sur la Ligue 1 durant cette période, a déjà fêté correctement son titre de champion de France à l'extérieur, donc comme quoi ce n'était pas un problème que de fêter ça sur un terrain adverse. Et pour terminer, comme je le disais, ça donne une image déplorable à l'international, puisque si vous avez vu ces images, c'est simple, vous avez une remise du trophée face au parquage, enfin juste devant le parquage parisien qui est parquage visiteur, avec 2-3 pancartes pour dire voilà champion de France 2026. Enfin vraiment, l'image est déplorable pour un club qui, je le rappelle, est champion de France, champion d'Europe en titre. encore aujourd'hui. Donc, image déplorable à l'international. Donc oui, gros carton rouge, gros coup de gueule à la LFP, au préfet de Paris et à la ville de Paris.
Voilà, bah, fallait le dire, on va marquer la pause musicale et ensuite on va continuer avec le chapitre foot en rejoignant notre ami de 4-3-3, Stéphane Desenclos. La musique avant. Voilà, ben, comme promis, donc, on va maintenant parler de notre brique foot avec notre ami de 4-3-3, Stéphane Desenclos. Stéphane, bonsoir. D'abord,
Bonsoir à toutes et à tous.
Ouais. Bonsoir, alors, un Stéphane. Petit mot d'abord, Stéphane, avant de commenter là-dessus de ce week-end. La liste donc, de Didier Deschamps, pas véritablement de surprise hein, pour ces 26.
Non, bah, la surprise, les deux sur les trois surprises. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui auraient pensé à Jean-Philippe Mateta, puisqu'il était effectivement bien parti en novembre. Il a fait un bon passage chez les Bleus, puis après il a été blessé. Et lui, il a décidé de ne pas se faire opérer pour jouer toutes ses chances d'aller à la Coupe du Monde. Mais, on va dire qu'il y avait la présence de Mateta, l'absence de Camavinga, puis le changement de gardien de but, de troisième gardien de but, un peu au dernier moment, qui sont qui ont été des légères surprises.
Ouais, et Tiquité n'étant pas là, ça donnait la chance à Mateta fatalement. Hein.
Ouais, tout à fait. Ouais. Mais beaucoup, je pense que beaucoup connaissant Didier Deschamps, beaucoup d'observateurs pensaient qu'il aurait quand même opté pour Colomwani, qui est un joueur qu'il a toujours bien aimé, qu'il a toujours maintenu. tenues en groupe, et comme c'est pour avoir un rôle sur pour pas longtemps, un plus, c'était un profil un peu intéressant, un peu différent, donc beaucoup auraient peut-être misé sur Colomani.
Oui, mais quand même, Stéphane, 5 milieux de terrain et 9 attaquants, c'est un petit peu nouveau, ça. Ça veut dire que Doué peut jouer milieu de terrain offensif, hein.
Voilà, c'est assez nouveau, mais après, faut voir les profils, parce que vous avez des joueurs comme, par exemple, je regardais la liste, les dernières listes de Didier Deschamps, par exemple, Antoine Griezmann, par exemple, il était peut-être, c'est toujours pareil, il y a toujours eu moins de pas énormément des milieux de terrain, parce qu'il y a, des attaquants qui peuvent jouer,
voilà.
Qui peuvent jouer aussi attaquants au milieu comme Olise, Cherki, Akiou.
Stéphane ?
Oui.
Ah, oui, ouais. Oui. Vas-y, parce que là, on t'avait un petit peu perdu, là. On t'avait un petit peu perdu. Oui, on t'avait un petit peu. Oui, ça va très bien, là. Vas-y, continue.
Non, je disais qu'il y a des joueurs comme Michael Olise, Ryan Cherki, ou même Magnès Akiou, qui ont un profil aussi, ou même Désiré Doué, par exemple, hein, on l'a vu dernièrement encore avec le Paris Saint-Germain, est un joueur qui peut très bien jouer aussi au milieu de terrain. Quoi.
Ouais, c'est ça. Allez, Marius, donc on aborde la dernière ligne droite. Alors, il y avait déjà des matchs en retard, et ensuite la 34e et dernière journée du championnat de Ligue 1. Le verdict est tombé, mais quelle dernière journée !
Quelle dernière journée ! C'était le multiplex, et on a eu 26 buts au total. On va commencer avec le derby parisien, hein, Paris FC PSG, et c'est le PFC qui remporte ce derby. Le PSG déjà champion, se concentre désormais.
Il y a des matchs en retard quand même.
Oui.
Hein.
Concentre désormais sur la finale de la Ligue des Champions. Le PSC finit tout de même 11e, le meilleur résultat de son histoire, faut le dire. Ensuite, on a eu Lyon, Lens et victoire, grosse victoire des Lensois 4-0. Lens boucle sa saison historique avec un festival sur la pelouse lyonnaise. Lyon finit donc 4e et va devoir passer par un tour préliminaire pour espérer disputer la Ligue des Champions. Et ensuite, Lille-Auxerre plutôt, et victoire d'Auxerre 2-0. C'est magique, Auxerre reste en Ligue 1. Les Lillois n'ont rien pu faire face à des guerriers auxerrois. Lille reste cependant 3e et jouera bien la Ligue des Champions la saison prochaine. Ensuite, on a eu Marseille-Rennes, et là, pareil, gros match en jeu. C'est les Marseillais qui gagnent 3-1. Marseille tient enfin un succès de prestige, on peut le dire quand même, cette saison, et passe à la 5e place, synonyme de Ligue Europa. Rennes 6e est pour l'instant en Conference League, en espérant que Lens gagne la Coupe de France pour également accéder à l'Europa League. Et là ensuite, quel match, hein, Strasbourg-Monaco, victoire des Strasbourgeois 5-4. Et quel match à la Méno, les Strasbourgeois étaient menés 4-1. Et avant de renverser totalement de match et de s'imposer 5-4, malheureusement, ça change rien au classement. Strasbourg ne jouera pas d'Europe, malheureusement, la saison prochaine. Monaco, 7e, eux vont espérer que Lens gagne la Coupe de France pour espérer avoir une place en Conference League. Ensuite, on a eu Lorient, Le Havre, et victoire de Le Havre,
surprise,
2-0.
Hein, belle surprise, hein.
Ouais, belle surprise, puisque Lorient est invaincu depuis je ne sais pas combien de temps à domicile. Donc Le Havre qui assure son maintien. 2-0, solide offensivement et défensivement. Les Havrais se sauvent in extremis et joueront la Ligue 1 la saison prochaine. Lorient finit 9e, auteur d'une belle saison tout de même. Et là, match Nantes-Toulouse, hein, malheureusement, c'est un match qui n'a pas eu lieu puisqu'il a été arrêté.
3-0. Tu peux dire 3-0.
Je pense que voilà.
Il y aura tapis vert, ça c'est sûr.
Il y aura tapis vert.
Tu peux dire Toulouse vainqueur 3-0.
Voilà. Match malheureusement arrêté à cause d'un envahissement de terrain. Voilà, Nantes est déjà en Ligue 2, fin de saison de la pire des manières.
Il y aura 3-0,
pour les Nantais. Ouais. Ensuite, on a eu Brest-Angers et match nul 1-1. Match sans grands enjeux. Hein. Brest n'a pas. Voilà, vraiment sans enjeu, n'a pas réussi à s'imposer pour sa dernière à la maison. Brest et Angers finissent donc respectivement à la 12e et 13e place. Ensuite, on a eu Nice et Metz, et là, c'était un match aussi important pour Nice. Quoi. Malheureusement, 0-0 hein, pour les Niçois. Catastrophe pour Nice, qui rejoint Saint-Etienne en barrage face à des Messins déjà en Ligue 2. Nice n'a pas su trouver la faille et va devoir jouer la finale de la Coupe de France, ainsi que son maintien le 26 et 29 mai.
Voilà, puis pour être complet, on va rappeler qu'en match en retard, donc le PSG s'était imposé à Lens 2-0 et que Strasbourg avait gagné à Brest 2-1. Ce qui fait que Stéphane, on en parlait, hein, donc Paris décroche son 14e titre de champion de France avec 76 points, devant Lens 2e 70, 3e Lille 61, 4e Lyon 60 et 5e Marseille 50. 59, et 6e Rennes également 59. Ça, ce sont ceux, on l'a dit, qui seront européens. Le Paris FC est 11e avec 44 points. Et en bas de tableau, effectivement, eh bien, Auxerre s'en est tiré, mais ça a été très serré. Hein. 13e Angers, 36 points. 14e Le Havre, 35 points. 16e Auxerre, 34 points. Et 16e donc Nice, 32 points. Et puis Nantes et Metz qui étaient déjà condamnés. Mais donc Nantes, 17e avec 23 points. Et Metz, 18e et dernier avec 17 points. Bah, finalement, on en parlait aussi un petit peu dans le coup de cœur de notre ami Stéphane. C'est bien qu'Auxerre se soit sauvé.
Ouais, c'est bien qu'Auxerre se soit sauvé.
Pour le football, pour le football.
Oui, surtout qu'on regarde les dernières journées, parce que c'est vrai que déjà, au cours de la saison, ça paraissait quand même au-dessus de certaines équipes, notamment de celles qui sont derrière, hein, déjà Nice, Nantes, Metz, et peut-être même aussi d'autres équipes comme Toulouse, par exemple. Et donc, c'est très, très bien, avec des sacrés joueurs, avec un buteur exceptionnel, Sinaloko, qui les a carrément sauvés. Donc c'est magnifique. Maintenant, pour ce qui concerne le haut du classement, on a une dernière journée en fait qui est tout à fait symbolique de l'ensemble de la saison, quoi.
Oui.
En fait, c'est que dans il y a à part Lens et le Paris Saint-Germain, il y a pas un seul club qui a été un peu digne de même de son classement, quoi. C'est-à-dire quand on voit avant que moi j'aurais jamais pensé que Lyon prendrait 4-0 chez lui face à un Lens qui vient 5 jours avant la finale de la Coupe de France, une équipe un peu hybride, hein. On savait que Barroso, par exemple, était titulaire, alors qu'il a dû être titulaire 2 fois dans la saison, et venait bien mettre une correction comme ça, les Lyonnais qui pouvaient espérer terminer 3e de Ligue 1, voire qui pouvaient avoir peur de faire perdre leur 4e place si jamais Rennes faisait un résultat. Marseille-Rennes, Marseille n'a pas fait un très grand match, n'a pas fait un très bon match, mais a quand même gagné avec une erreur. Quoi, bref, il n'y a aucune équipe qui a répondu vraiment présent, si ce n'est dans le résultat à Marseille. Et puis, par contre, les équipes qui se battent pour se maintenir, genre Le Havre, par exemple, qui a charbonné depuis laborieusement toute cette deuxième partie de saison, a réussi à avoir le résultat qu'il lui fallait. Pour moi, c'est un peu le symbole de cette saison, avec même Strasbourg qui bat Monaco très très décevant, et Strasbourg qui nous laisse beaucoup de regrets, parce qu'on a par exemple un Nanasi qui a marqué 2 ou 3 buts, je ne sais plus, dimanche, et puis qui avait été pourtant plus ou moins écarté par son entraîneur.
Incompréhensible sa gestion, la gestion de Nanasi.
Il n'a pas débuté un match, quoi. Tout ça, c'est un peu le symbole de FIFA. C'est Monaco qui, bon, de toute façon, que Monaco ait gagné ou pas gagné, il serait resté à la même place, quoi. Puisque Marseille a gagné. Pour moi, c'est un peu un symbole, cette dernière journée. C'est un symbole jusqu'au Paris Saint-Germain qui a la tête. On sait, le Paris Saint-Germain gagne les matchs qu'il faut gagner pour être champion de France. Ils ont gagné dans la semaine à Lens, même si ça n'a pas été facile. Et là, visiblement, il y avait quand même un manque de motivation et d'énergie donnée dans le match, quoi.
Alors, comme l'a dit Marius, hein, il y aura un barrage Saint-Étienne-Nice. Donc, le match aller, ça sera effectivement le 26 mai à 20h45.
À Geoffroy Guichard.
Et le match retour le 29
mai. Le 29 mai à l'Alliance Riviera à Nice. Ouais,
voilà.
C'est ça.
C'est ça. Allez.
Avec Nice qui a déjà annoncé que la priorité des priorités, c'était ce match de barrage.
Ah, ça semble logique.
Ouais. Mais Nice, ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé à Reims l'année dernière. Ouais. Mais enfin, voilà.
Exactement.
Ouais, ouais.
Exactement.
Alors, tu nous donnes aussi des résultats de play-off, justement.
Oui,
les barrages, il y en avait aussi.
Il y a eu les play-offs de la Ligue 2, oui.
Ouais.
On a eu Red Star Rodez. C'est Rodez qui s'est imposé 3-2 sur la pelouse du Red Star. Malheureusement, le Red Star ne va pas monter en Ligue 1. Puis, on a eu du coup Saint-Étienne-Rodez, match 0-0. Hein, et qualification de Saint-Étienne dans une séance de tir au but à rebondissement vraiment exceptionnel.
Ouais.
Donc, comme on l'a dit, hein, ça sera donc Saint-Étienne-Nice pour le barrage.
7-6 au tir au but. Un petit mot sur ce match, Stéphane?
Un petit mot. si ce n'est qu'on se confirme la règle. Moi, je pense qu'on devrait peut-être un peu changer quand même le mode de fonctionnement de ces playoffs, parce que depuis qu'ils existent, on n'a jamais vu d'équipe, en tout cas terminant en 5e de Ligue 2, parvenir à monter en Ligue 1. Et puis quand vous allez jouer le mardi un match à l'extérieur, je parle de Rodez au Red Star, que vous arrivez à le gagner et que vous devez, moi j'y étais donc au Red Star, mm-hmm. Il faut savoir qu'ils sont partis à 11h30 par exemple, les joueurs de 11h30 de Saint-Ouen, ils avaient 45 minutes de car pour aller prendre leur bus, pour aller prendre leur avion à Melun, parce que sinon il n'y avait aucun aéroport ouvert. Bref, ils sont rentrés à 4h du matin à Rodez, et puis le mercredi matin, et ils jouaient le vendredi soir dans le chaudron, devant 38 000 personnes, face à une équipe qui était au repos depuis une semaine. Donc il n'y a absolument rien pour Saint-Étienne, bien sûr, mais peut-être qu'il y a un calendrier à faire avoir pour que ça soit un tout petit peu plus équitable, quoi, parce que c'était déjà un exploit exceptionnel que de tenir et de faire le match que Rodez a fait, puisque Rodez a même eu les principales occasions mais visiblement ils étaient à bout de souffle. Puis après il y a eu cette chance de tir au but absolument exceptionnelle, incroyable, 3 arrêts pour le gardien de Rodez, 4 arrêts pour le gardien de Saint-Étienne. C'est absolument en tout cas pour le spectacle, c'est sympa.
En tout cas, bravo à eux, malgré cette série qui s'arrête. Allez, Marius, c'est aussi la dernière journée de National.
Mais malheureusement, c'est triste, puisque Fleury s'est incliné.
On y était, on passera les interviews dans 15 jours dans le bilan foot. Mais
Fleury s'est incliné dans les 5 dernières minutes face à Rouen, 2-1. Versailles contre Saint-Brieuc, Versailles fait match nul 2-2.
Et Saint-Brieuc réduit à 10.
Oui, Saint-Brieuc réduit à 10 en plus. Et donc Quevilly-Rouen qui gagne contre le Paris 13 Atlético. Paris 13 Atlético qui était déjà maintenu sans grandes incidences. Donc Rouen qui prend donc la place de Fleury en barrage, qui affrontera Laval le 19 et 24 mai pour espérer la Ligue 2.
Ça sera à 20h30 donc le 19 mai et à 17h le 17 mai. Donc c'est Dijon qui remporte le championnat national avec 58 points devant Sochaux. Donc également deuxième. Troisième Rouen 55. Et puis il y a plus pour Dijon. Sochaux à 58. Rouen est troisième. Fleury donc quatrième, tu l'as dit, 54. Et Versailles 5e, 53. Et 6e Orléans 51 points. Stéphane, grosse déception quand même. Ils sont passés pas loin, Fleury. Ils y ont cru.
Que Fleury est passé tout près. Hein, quand même, pendant temps, il menait encore 1-0 à la 87e minute. Il ferait 3 pénalty à la 87e et un but à la 91e ou 92e. On va dire que c'est peut-être aussi l'expérience. Hein, vous avez un des coachs les plus expérimentés du national, hein, Régis Brouard à Rouen. Et un entraîneur beaucoup moins d'expérience en face, donc peut-être que ça joue. Mais ce qui est passé plus un peu inaperçu, c'est l'énorme aussi raté de Versailles.
Rouen
gagnant 2-1. Versailles avait besoin simplement de battre Saint-Brieuc, le dernier de National déjà relégué, réduit à 10, quand on dit tout ça. Avec, par exemple, ils auraient gagné 2-0 contre Saint-Brieuc. Versailles, c'est eux qui jouaient, qui terminaient 3e. Donc, je pense que le club, bien que s'ils écoutaient le match à la radio, ils s'attendaient peut-être pas non plus eux à ce final-là. Mais après coup, je pense qu'ils ont quand même dû un petit peu le regretter. Puis Thoroux qui descend. Mais bon, tout ça va quand même se jouer. Maintenant, on rentre dans la grande saga de la DNCG, comme chaque année maintenant de ces dernières saisons, c'est pas parce qu'on est maintenu, c'est pour ça qu'il y a un club comme le Paris 13 Atlético, par exemple, c'est pas, je jurerais pas qu'il passe tous les barrages pour pouvoir être encore en Ligue 3 l'année prochaine. Ça va être compliqué pour eux, mais j'espère en tout cas qu'ils vont y arriver, mais Et il y a plusieurs clubs qui sont dans ce cas-là, en national, quoi.
Oui, alors, donc Dijon, hein, c'est 7 points d'écart hein, qu'ils ont sur Sochaux. On a retrouvé dans le résultat 65 pour Dijon et Sochaux, deuxième 58. Et comme tu parlais du bas de tableau, bah, le Paris 13 Atlético, ils se maintiennent quand même, mais de pas grand-chose quand même. Hein, 14e avec 32 points, devant donc 15e Bourg-en-Bresse, 31 points. Et les deux clubs qui descendent, c'est Châteauroux, vraiment grandeur et décadence, qui avait été repêché l'année dernière, mais bon, cette année, à nouveau, ils redescendent. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de repêchage. Donc 16e Châteauroux avec 30 points. Et 17e Saint-Brieuc, 27 points. Un tout petit mot, Marius, on termine avec les féminines.
Les féminines, parce qu'il y a eu les
demi-finales. Deuxième victoire du Paris FC devant le PSG ce week-end.
Et oui, le PFC qui s'est imposé face au PSG 1-0. Et Lyon qui s'est imposé très largement face à Nantes 8-0. Donc on aura une finale Lyon-Paris FC.
Oui, ce sera le 29 mai à 21h. Stéphane, Lyon-PFC la finale.
Ouais, bah Lyon PFC, normalement, ça va encore être bon. En tout cas, Lyon va être favori, mais moi, personnellement, j'ai vu les deux matchs. C'est vrai que dans les deux matchs, c'est hallucinant, quoi. Déjà, apprendre que Lyon a battu Nantes 8-0 à la 50e minute, il y avait encore 0-0. Ouais. Nantes a fait une super première mi-temps, a bien tenu Lyonnaise. Et puis après, c'est absolument incroyable de voir comment elles sont craquées. Quant au PSG, ça a été un match à sens unique, hein, vraiment à sens unique. Paris Saint-Germain a quand même un poteau et deux buts refusés par Lavard. Et refusés, pas avec pour des hors-jeux, hein, les deux, mais pas avec des hors-jeux de 50 ou 1 mètre, hein, des hors-jeux de 5 centimètres, quoi. Mmh. Ils ont eu deux buts refusés à un poteau et une barre, je sais plus, et une barre, je crois, et ils sont sortis, grand match du Paris FC, grand match tactique, qui les a quand même pas mal enlevé. Et voilà, donc ça va être un peu, ça va être dit. On a envie de croire que le Paris FC est capable de gêner cette équipe de Lyon, mais il y a peu de chance quand même, quoi.
Très bien, merci Stéphane pour ce point foot très complet. C'était le dernier de la saison. Tu viens en studio pour faire le bilan dans 15 jours et après ça sera tout mondial, ok?
Ok, pas de problème. Bonne soirée à tous. Et à tous, hein.
Merci Stéphane.
Merci Stéphane.
Voilà, ouais. Merci beaucoup.
Salut. Bonne soirée.
Merci Stéphane. Voilà donc pour ce point foot. Merci donc à Marius. Et je l'ai dit, comme c'est Pentecôte la semaine prochaine, c'est repos. Mais on fera un grand débrief de toute la saison dans notre émission de la semaine dans 15 jours.
Dans 15 jours.
Voilà. Je voulais simplement vous dire pourquoi vous n'iriez pas faire un petit peu de char à voile là-bas,
faire au du char à voile,
ou à Brétigny, et puis ils viendront vous faire du châle.
Oui, alors moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait pas mal d'équitation sur la plage du Touquet. Les chevaux, les chevaux ont un peu peur du char à voile, pas tellement le char en lui-même, mais du bruit qu'ils font. Ouais. Donc,
mais vous délaissez le cheval.
Non, sans façon.
Non, je sens que madame est très passionnée de son des chevaux et j'arriverai pas à la convaincre, mais si vous le souhaitez, vous êtes tous d'ailleurs le bienvenu sur le centre école au Plessis. Hein. On vous accueillera si vous voulez faire une émission de radio de là-bas. On accueille beaucoup de scolaires et de particuliers.
Tiens, sur le char à voile, donner ses impressions.
Bah oui, bonne idée.
Qu'est-ce que je veux dire, on peut en vivre du char à voile à haut niveau?
Non. Il y a vraiment que ce pilote qui a battu ce record sur Saab à 151 km/h, qui à un moment, c'est il y a très longtemps, une trentaine d'années, vivait un peu de son sport, mais c'est vraiment le seul cas qu'on connaisse vraiment. Non, c'est pas du tout. Même dans les sports olympiques, on n'en vit pas parfois.
Des fois, on peut partir à l'étranger, il peut y avoir des partenaires, des sponsors qui vous fassent vivre, en tout cas.
Je passe aussi un message comme madame l'a fait. Nous recherchons aussi des partenaires à la fédération. Ouais. Nous invitons les partenaires qui seront intéressés pour l'accès au sport pour le plus grand nombre, par la démocratisation du char à voile dans le modèle un peu inland, à venir nous accompagner. On a besoin
On parlait d'Evry, de Fleury au foot. Allez faire un partenariat avec Fleury.
Mais oui, oui, oui. D'ailleurs, on est ouvert à tous les stades. Voilà. Il y a plusieurs manières de nous accompagner. Il y a notamment ces clubs, on les a aussi invités à venir avec leurs ados, avec les jeunes catégories, venir faire des séances. C'est une manière de venir aussi nous aider en venant avec leurs équipes faire du char à voile, tout simplement.
Très bien. Merci en tout cas. Ça a été un plaisir. À très bientôt.
Merci.
Merci Daniel. Un dernier petit mot à dire, oui. Non, pour ceux qui
non,
veulent...
Non, non, mais écoutez, merci de nous avoir reçus et de que l'équitation soit moins un sport élitiste et abscon. Ça devient maintenant pour tout le monde et à tous les niveaux.
Bah, j'espère qu'ils l'auront en tout cas.
J'espère.
Puis vous pouvez réécouter le podcast
j'espère.
Qui a été fait sur le Salon du Cheval au mois de décembre.
Absolument, voilà. Promis, je l'irai l'écouter.
Voilà, vous pouvez le réécouter. Merci Marius, merci donc Stéphane.
Merci
Vanessa, belle soirée.
Merci,
et puis
belle soirée
retrouve,
à tous.
On se retrouve donc dans 15 jours, hein, c'est la Pentecôte.
Avec
et puis on va
plaisir.
Faire un énorme merci à notre ami Daniel hein, qui était aux manettes donc, dans cette émission. Et on va passer le témoin à nos amis de Au bout du foot maintenant, hein, qu'on va retrouver. Ils vont encore aller plus loin dans l'actu foot. Voilà, belle soirée à toutes et à tous et rendez-vous dans 15 jours dans un instant au bout du foot et on finit comme chaque lundi en musique. Belle soirée.
Belle soirée.
Belle soirée
à tous.
Bonsoir à tous.
J'ai pris mes 2 minutes de plus.
Elle est danger, danger, elle est danger.
Pas sous bébé, je te vois guider. Tu me verras pas dans tes DM, mais sûrement t'étais. Je vais pas monter dans ta BM, j'ai déjà mon bébé. Je prends la route, je suis sur VDN, chez le DC. Tu me verras pas sur tes VM, et je sais. T'es scarfé sans fond, et je me mets à danser. Ororo, X-Men, je suis dans le ché. J'arrive comme une tornade, ils se mettent à danser. Je suis en haut. Dans l'S, elle aime les troublions, les grands chefs, je vais l'emmener voyager. Le temps presse, elle veut un tourbillon de tendresse. Qu'elle dise ami nous amène, on s'embrouille quand même. Elle s'est pris pour une reine depuis son bébé, elle. Trop belle que des problèmes, j'assume plus la go. Featuring Birkin, shopping Milano. Plutôt qu'être surpris, je préfère être parano. Wallah, Billa, j'y passerai pas l'anneau. J'ai coulé depuis, j'me suis remis à niveau. J'ai coulé encore, à nouveau. J'arrive de là-haut, 810 chevaux. Quartier Colmao, Grand Prix de Monaco. J'arrive de là-haut, 810 chevaux. Quartier Colmao, Grand Prix de Monaco. Oro, jusqu'à BKO. Mani puissance, si ça met KO. Jusqu'à BKO. Mali puissance, si ça met KO. Et se mettent à danser, danser, se mettent à danser.